est blanche.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il est à peine dans le studio qu'on le pousse tout de suite sur les ondes. Le temps est compté aujourd'hui avec notre invité Pierre Damien Vaujour. Bonjour.
Bonjour Thomas.
Pierre Damien, tu fais partie de cette nouvelle promo 2023. Certains ont rempilé, tu en fais partie avec ton entreprise Loft Orbital dont on va parler. On va se plonger dans l'univers de la space tech, du new space. On va essayer de comprendre comment t'en es arrivé là, comment t'as fait cette entreprise, la pépite qu'elle est aujourd'hui. Alors donc je disais, hein, t'es entré au Next 40 l'année dernière, on a mis une bonne année à trouver un créneau très serré dans ton emploi du temps. On va passer une heure ensemble, je crois que t'es à San Francisco là.
Exactement.
Donc on se parle à distance. Et il nous a fallu un an pour trouver ce moment, donc on va accélérer. C'est pour ça que j'ai lancé directement l'enregistrement. Il y a un problème d'espace-temps dans ce secteur?
C'est ça, il y a un problème d'espace-temps, ça doit être ça. Non, je pense qu'on essaye de développer une boîte qui fait du spatial, donc qui développe des satellites, qui opère des satellites, et on grandit très vite. On essaie d'être la boîte qui grandit la plus vite dans le domaine du spatial aujourd'hui dans le monde. Donc c'est challenging, c'est compliqué, donc ça fait un emploi du temps très chargé.
J'ai fait mon petit travail en amont. T'as quasiment passé toute ta carrière, avec quelques parenthèses, dans ce monde-là. On peut le retrouver sur ton LinkedIn, hein, mais tu commences, j'imagine, par un stage ou une alternance à l'Agence spatiale européenne. Tu vas participer à des challenges comme le Lunar Lander Challenge en 2008, donc ça nous rajeunit pas. Le Google Lunax X Prize. Donc ensuite, parenthèse, là, on est en 2010, tu vas cofonder Zelco, une solution RH pour les stages internationaux. Je pense que ça devait être la période où tu cherchais, ou juste après avoir cherché un stage pour toi. Tu nous en diras peut-être un mot. C'est toujours intéressant, les premières aventures qu'à un moment on est amené à quitter pour en lancer d'autres. Et puis très rapidement, retour dans l'espace, en tout cas dans son univers, la NASA. Tu vas être consultant SF pour, je crois, accompagner les innovations spatiales sur le marché américain. Tu peux me dire que si j'ai pas bien compris ton LinkedIn, si c'est pas clair, si c'est pas complet. Spire Global, là j'ai pas compris ce que tu faisais, mais tu pourras nous le dire. Et puis donc enfin, et c'est pour ça que t'es là, 2017 tu confondes Loft Orbital. 2021 il y a une grosse levée de 125 millions d'euros, notamment avec BlackRock, BPI France aussi. On va parler de cette pas de dualité, mais vous avez deux sociétés de droit, une société aux États-Unis, une en France. J'imagine que ça amène quand même des particularités, notamment de gouvernance. Et donc, vous entrez au Next 40 l'année dernière, et nous voici ensemble dans 40 nuances de Next.
Bah écoute, très bon résumé.
On commence par ce qui t'a amené dans cet univers.
Je pense qu'en fait, au début, j'avais envie de... J'étais un peu inspiré par les films de, pas forcément de science-fiction, mais tu vois, les films genre Apollo 13, où tu te dis, ah ouais, j'ai envie d'être la personne qui est dans la salle de contrôle à Houston. Houston, on a un problème et tu vas les aider à.
Et tu vas le résoudre.
Voilà, tu vas les aider à revenir de la Lune, etc. Tu te dis que c'est génial. Et puis en fait, après avoir fini mes études, je me suis dit, c'est une très bonne idée, je vais aller essayer de travailler là-bas. Et puis je me suis rendu compte que pour y aller, en fait, c'était facile. Il suffit d'acheter un ticket, vu que maintenant c'est un musée. Et donc, il n'y a plus personne qui travaille là-bas, vu que ça fait plus de 50 ans qu'on n'a pas envoyé quelqu'un sur la Lune. Donc là, je me suis dit que j'aurais pu m'enseigner avant de choisir mes études. Mais bon, il y avait quand même d'autres options. Donc voilà, c'est un peu pour ça au début que je suis parti vers le spatial, un peu l'extraordinaire d'envoyer des hommes dans l'espace, etc. Et puis après, c'est vrai que j'ai commencé à travailler en agence. Donc comme tu l'as dit, à l'Agence spatiale européenne, donc aux Pays-Bas, en Suède, et puis après à la NASA, donc en Californie, dans la Silicon Valley. Et donc ça, c'est vrai que c'était super intéressant quand on est jeune et qu'on se retrouve recruté par le directeur du centre de la NASA pour aller travailler avec lui en Californie, la vie est belle, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'était assez inspirant. À la fois, en étant français à la NASA, on est assez vite limité.
C'est quoi, on t'ouvre pas toutes les portes ? C'est une question de secret ou ?
Non, alors aux États-Unis, le spatial est complètement divisé entre ce qui est militaire et ce qui ne l'est pas. La NASA s'occupe de absolument rien qui est militaire. Ils ont 45 agences qui font de la défense, donc ça, ils ont plus en plein, c'est les Américains. Mais la NASA n'en fait pas du tout. Donc il y a a priori rien du tout qui est. Il n'y a rien qui peut être considéré comme quelque chose de plus ou moins militaire. Mais il y a des lois qui font que certaines technologies spatiales qui pourraient être utilisées un jour peut-être pour faire quelque chose qui pourrait être militaire, sont quand même limitées. Donc, il y a des choses où, par exemple, on va acheter une caméra qui peut aller dans l'espace, qu'on achète à Airbus en France, ouais, qui est fabriquée par les Français. Donc, c'est moi qui la vois, je fais, bon, on va l'acheter. On l'achète, pas de problème. Et puis, le jour où elle arrive sur le territoire américain, là, quand elle arrive à la NASA, là
c'est secret.
Je peux plus la voir. Enfin, maintenant, vous n'avez pas le droit de la voir, vous n'avez pas le droit de savoir ce que c'est, etc. Mais en fait, c'est des Français qui l'ont designé. Moi, je suis Français, c'est moi qui l'ai acheté. Mais ça va pas le voir.
C'est ma caméra. Ça,
c'est... Voilà, c'est l'occasion de ce sujet-là. Ou plusieurs fois, quand on travaille sur des projets qui avancent bien, donc on fait des propositions pour des missions assez intéressantes, pour des missions pour aller faire des orbiteurs autour de Vénus ou des choses comme ça. Et puis un jour, il y a ton patron qui t'appelle, qui te fait, Pierre Amien, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que grâce à ton travail, tu as fait une super proposal. On a eu le projet, c'est 250 millions de dollars pour aller faire un orbiteur autour de Vénus. Donc le projet est sélectionné, ça avance, c'est super. Ok. Et la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que maintenant que le projet avance, bon, ben, c'est
sans toi.
US citizens only, quoi. D'accord. donc ça, au début, c'était pas le. Enfin, on sent qu'il y a des limites en étant français à la NASA. Et l'autre point, c'était que tous mes amis travaillaient dans les startups, donc sur des projets qui avançaient à une échelle de quelques semaines, quelques mois. Il y avait toujours de l'activité. Il y avait des choses qui avançaient très vite. C'était assez excitant. Et puis bon, moi, je travaillais pour des missions qui partiraient dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, une échelle de temps différente.
Là, on commence à sentir les prémices de ce que va devenir Loft Orbital sur les pain points, sur les enjeux de temps et les usages.
Oui, exactement. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant. Donc, c'est là que j'ai voulu plutôt rejoindre le monde des startups. J'ai quelques amis qui ont créé une startup qui s'appelle Planet, qui est une autre startup du spatial qui a très bien marché, mais j'étais pas sûr que ça allait marcher au début, j'étais même sûr que ça allait pas marcher au début. Je me suis bien trompé. Donc, je ne les ai pas rejoints. Et puis, après, il y a une autre startup qui s'est lancée, qui s'appelait Spire, que j'ai rejoint au tout début, donc quand il y avait 5 employés. Ils avaient levé 100 000 euros sur Kickstarter, donc c'était du crowdfunding. Donc, c'était vraiment le tout début de la boîte. Mais pour une raison qui m'échappe encore, j'y croyais plus. Donc, j'ai rejoint la boîte très tôt. Et c'était assez sympa parce que du coup j'ai pu voir la croissance de la boîte depuis 5 employés, 100 000 euros de financement, jusqu'à avoir lancé une vingtaine de satellites, avoir fait série A, série B, on avait levé 40 millions en série B, on était une centaine d'employés.
T'avais quelques raisons d'y croire après coup quand même.
Ouais, bah là ils ont fait l'année dernière, ils ont fait un SPAC à 1,6 milliard, donc ils sont sortis en bourse 1,6 milliard. Bon, puis maintenant ils sont un peu crachés, mais ça m'a donné un peu à la fois la visibilité de ce que c'est que de prendre une boîte de zéro et de l'amener à une centaine de personnes, de lancer des satellites, de gérer une infrastructure globale avec des antennes dans le monde entier, etc.
Sans quitter ton univers. Et du coup, à un moment, j'accélère un peu parce qu'on n'a qu'une heure ensemble et j'ai 100 000 questions. Mais Loft Orbital, du coup, tu l'as évoqué, mais je veux bien qu'on rentre un peu plus dans le détail aujourd'hui de la promesse et surtout de la mécanique, du business model autour de l'usage, les usages de vos clients qui sont très variés et comment vous avez craqué le sujet. Parce que si vous êtes les premiers à faire ce que vous faites, Et on peut peut-être expliquer en quoi.
Alors, vous voyez, il y a plusieurs façons de voir les choses. L'analogie qu'on utilise le plus, hein, c'est de dire qu'on est une société d'infrastructure. Donc, on fait de l'infrastructure comme, par exemple, Amazon Web Services ou Google Cloud, qui sont des sociétés qui vous laissent déployer des applications sur leur virtual machine. Et donc, c'est eux qui, en fait, gèrent l'Internet mondial. Toutes les applications Internet sont hébergées physiquement sur des serveurs dans leurs server farms qui sont au milieu de l'Alabama ou au milieu de, on ne sait pas où elles sont et personne n'y connaît rien.
Et tu payes à la data et à l'utilisation.
Voilà, et tu payes à Zugo. Nous, notre modèle, c'est de faire un peu la même chose, c'est-à-dire d'avoir une infrastructure spatiale, donc des satellites dans l'espace qu'on déploie et on laisse nos clients déployer leurs applications sur cette infrastructure. Ça, ça peut prendre deux formes. La première, c'est des clients qui nous envoient des instruments qu'ils veulent envoyer dans l'espace. Donc, par exemple, la NASA qui veut envoyer une caméra infrarouge pour suivre la température des océans en continu à travers le temps. Mmh. Bon, bah, voilà, donc ils nous donnent la caméra, nous on la fait voler pour eux, et puis ils nous payent tous les mois pour pouvoir opérer leur caméra et recevoir leurs données depuis l'espace. L'autre type de client, c'est des clients qui nous fournissent que du software et qui veulent accéder à plusieurs instruments qui sont déjà dans l'espace, donc des radios, des choses comme ça, qui leur permettent de faire du, ce qu'on appelle du edge compute, c'est-à-dire de faire du data processing dans le satellite, dans des ordinateurs de bord que nous, on envoie. Et ça leur permet de ne retirer que l'information utile. Donc, l'exemple typique, ça va être cette caméra infrarouge de la NASA pour mesurer la température des océans en temps réel. Dès qu'on va être au-dessus de la Terre, parce qu'on tourne autour de la Terre, donc on passe au-dessus des océans, puis au-dessus de la Terre, puis au-dessus des océans. Quand on est au-dessus de la Californie, par exemple, on va prendre les mêmes images, mais on va les laisser dans le satellite, avec un algorithme d'une autre boîte qui va repérer s'il y a des feux de forêt, par exemple. Est-ce qu'il y a des feux de forêt en Californie ?
Donc, tu peux utiliser les outils envoyés par certains que tu mutualises pour d'autres.
Voilà, c'est un peu le concept de Airbnb. C'est-à-dire que comme
dans
l'espace...
Et eux, ils sont rémunérés pour ça aussi, du coup.
Alors, dans le business model, non, en fait, ce qu'on vend, on vend un service agreement. Et généralement, ce qui se passe, c'est que le client utilise généralement un intérêt géographique et donc utilise son instrument pour une durée assez faible. Par exemple, on travaille avec l'agence spatiale des Émirats, où ils veulent observer les tempêtes de sable, donc c'est aussi pour faire de la prédictive météo. Mm-hmm. Mais comme le satellite tourne autour de la Terre, il passe au-dessus du Moyen-Orient 2 fois 6 minutes par jour. Donc ils ont besoin d'un instrument pendant 12 minutes par jour. Le reste du temps, l'instrument n'est pas utilisé. Et donc ça, c'était une des raisons fondamentales de Crayloft, c'est de se dire... En fait, les gens, des fois, dépensent 10 ans et 500 millions de dollars pour avoir un satellite dans l'espace et ils vont l'utiliser 12 minutes par jour. Et on se dit que là, il y a moyen d'être plus efficace.
Et on n'est pas à l'abri que le besoin change en 12 ans non plus.
Oui, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, en effet. Donc voilà. Donc ça, c'était une des premières idées, c'est de mutualiser le temps en orbite. Nous, on développe et on envoie nos propres instruments aussi, hein, dans certains cas, pour justement les laisser complètement mutualisés pour pas mal de clients. Et donc, cette partie software, on l'a fait en collaboration avec certains gros du spatial comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qui sont à la fois des clients et des partenaires. Donc, avec Microsoft, par exemple, on développe un produit qui permet aux gens de développer du code dans le cloud, donc sur Azure, comme n'importe qui le ferait aujourd'hui, mais de déployer ce code non pas sur un serveur en East Germany ou Western Canada, mais de le déployer sur un satellite.
Il y a la possibilité de changer le code à distance.
On laisse le client uploader son code. Donc, on a toute une infrastructure au sol de tests, de simulations qui permet de tester le code. Parce que, par exemple, quand le code va être envoyé dans l'espace, il ne faut pas que l'ordinateur surchauffe, par exemple. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, il n'y a pas de solution pour dissiper la chaleur. Si vous avez un iPhone que vous allumez dans l'espace, en 2 minutes, il va cramer, en fait, parce que la puce va surchauffer. Et donc, pour éliminer ça dans l'espace, on est obligé d'avoir un fil de cuivre au-dessus de chaque petit transistor pour évacuer la chaleur vers le côté sombre de l'espace.
Donc, il y a un sujet physique et ce n'est pas que de l'obsolescence programmée.
Ah non, non, non. Là, vu les coûts mis en jeu, il n'y a pas d'obsolescence programmée.
J'imagine, mais c'est peut-être qu'une projection, que la question cyber est essentielle.
La question cyber est essentielle, en effet. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de sujets dessus. Je pense que la guerre en Ukraine en a amené beaucoup plus. Oui. Notamment, bon, les Russes ont annoncé targeter les satellites commerciaux maintenant, vu que les satellites commerciaux peuvent aider aussi. Et ça ramène peut-être un peu vers ta question de quels sont les clients, quels sont les use cases. On a vraiment.
C'est bien, tu fais. je te laisse tout seul, mais c'était là où je voulais aller, effectivement.
On a deux sujets principaux. fait, si on regarde les gros problèmes, on va dire les gros challenges de l'humanité aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais il y en a deux importants.
Changement climatique.
Changement climatique, ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et deux, aujourd'hui, surtout depuis un an, on va dire ce qu'on appelle global safety, c'est-à-dire gérer la situation avec la Chine, Taïwan, l'Ukraine, la Russie et d'autres points chauds. Et en fait, pour ces deux points-là, on a beaucoup besoin de satellites. Observer le climat, il faut le faire à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète. Observer quelque chose à l'échelle de la planète, il faut être en dehors de la planète pour l'observer. Donc ça, c'est vraiment deux use cases importants pour nous.
On avait reçu à ce micro Tanguy Toufut des Cart Underwriting qui justement utilise la data et les satellites pour voir l'évolution d'une parcelle, par exemple, qui aurait pris feu et être capable d'assurer à sa juste mesure telle ou telle parcelle agricole, par exemple.
C'est un bon exemple. Ouais. Donc voilà à peu près ce qu'on fait. On permet aussi de développer des nouvelles technologies pour l'infrastructure du futur. Donc ça va être des choses que les gens pensent pas forcément à ça, mais par exemple le GPS, tous les jours les gens l'utilisent. Bon, ça c'est des satellites dans l'espace. Donc nous, on a des technologies qui permettent d'améliorer le GPS. Alors quand on dit GPS, c'est la solution américaine. Mm-hmm. En bon européen, il faudrait dire Galileo, qui est la solution européenne.
Mais on travaille. Il y a peu d'Européens qui utilisent ce terme, mais très bien. On va changer. Mais,
pourtant, tous les Européens aujourd'hui dans leur téléphone utilisent Galileo, oui. Plus précis que le GPS commercial aujourd'hui. Mais on continue à utiliser le terme GPS, même si le vrai terme, ce serait GNSS. Mais voilà. On permet aussi aux gens de déployer des solutions, des nouvelles ou des futures solutions de télécommunication. Donc, si on parle de cyber, par exemple, un des gros sujets, c'est comment échanger des clés, donc des passwords, de manière inviolable, physiquement inviolable. Et pour ça, on peut utiliser les mécanismes de la mécanique quantique. Une des propriétés de la mécanique quantique, c'est que quand on observe une particule, on change son statut. Le simple fait de l'observer change son statut.
Et que ça change l'autre particule quelque part où elle est.
Voilà. Et donc, du coup, on sait que le message a été intercepté. Et donc, on travaille avec Honeywell pour déployer dans l'espace des lasers qui sont des démonstrations de clés quantiques. Donc de distribution de clés quantiques, où on échange des clés quantiques, donc c'est-à-dire des photons qu'on envoie à travers le globe à différents endroits, avec un laser qui est sur notre satellite. Donc ça, c'est le genre de technologies qui peuvent être utiles dans le futur, mais qui peuvent typiquement être envisagées comme l'infrastructure du futur pour l'échange de communications cryptées.
Tu vois comme ça d'autres usages qui peuvent arriver dans 5, 10, 20 ans ?
Oui, je pense que là, aujourd'hui, on voit que notamment grâce à des sociétés comme Loft, la complexité de déployer des constellations de satellites dans l'espace est beaucoup plus faible. Et donc, de plus en plus, on a des gouvernements ou des grosses entreprises qui souhaitent opérer leur propre constellation propriétaire de satellites. Et donc, ça génère un nombre de use cases monstrueux. Et de la même façon, étant donné que nous, on est un peu comme le AWS ou le Azure de l'espace, ta question, ça revient un peu à dire, mais si tu crées l'Internet, est-ce qu'il y aura des nouveaux use cases de l'Internet ?
C'est évident.
Et il y en aura plein. Quand la question avait été posée il y a 20 ans, on disait oui, les mères de famille pourraient changer leurs recettes sur Internet. C'était ça le use case principal d'Internet au début. Bon, là, aujourd'hui, on fait un podcast. Voilà, il y a eu un peu plus de choses qui se sont passées depuis. Et je pense que le fait de rendre l'accès à l'espace faisable pour non plus trois gouvernements dans le monde, mais l'ensemble de la population, ça change tout. Notamment le fait de laisser l'ensemble des développeurs du monde entier développer du code et utiliser des satellites dans l'espace sans avoir à besoin de connaître quoi que ce soit du spatial.
Aujourd'hui, Internet, c'est un tuyau qui amène le meilleur comme le pire. J'imagine qu'aujourd'hui, il y a plus de meilleur que de pire dans l'espace. Néanmoins, j'imagine que vous projetez aussi sur d'autres usages.
Oui, alors on peut voir ça comme ça. En réalité, le spatial, c'est un monde qui est quand même très régulé, très réglementé. Donc, on peut pas, même si on le voulait, on pourrait pas faire des activités néfastes. Du point de vue des pays occidentaux en tout cas, donc ça élimine toutes les activités qui pourraient être je sais pas, aller supporter la Corée du Nord pour faire quelque chose ou un truc comme ça. En revanche, en effet, il y a les applications de défense, et les Américains sont pas des anges non plus et les Européens non plus, hein. Quand c'est la défense, c'est la défense. En réalité, nous, les satellites qu'on fait, c'est des satellites qui ont des performances relativement faibles, et donc qui ne permettent pas de faire des applications qui pourraient être directement utiles d'un point de vue, on va dire, militaire. En revanche, ça permet de donner un contexte aux decision makers. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Ouais. Mais je peux pas aller, par exemple, espionner mon concurrent, mon voisin, demain.
Ah si, ça par contre, bien sûr.
Grâce à vos outils, bien sûr.
Bien sûr. Par exemple, un exemple type d'application, c'est bon, je vais prendre on n'a pas de client français, donc c'est pas un exemple réel d'application, mais ouais. C'est des choses qu'ils font aux États-Unis, par exemple. Orange est en train de déployer son réseau 5G et Bouygues aimerait bien savoir si oui ou non à Orléans ils ont vraiment déployé le réseau 5G, parce que Orange vient de dire on a une antenne relais, on déploie ici. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais. Bah, nous, depuis l'espace, on peut pick up toutes les fréquences. On voit si oui ou non il y a de l'émission de 5G depuis une antenne au-dessus d'Orléans depuis le site dit d'Orange. Donc ça permet aux decision makers de Bouygues de se dire où est-ce qu'on veut investir notre infrastructure? Est-ce qu'on veut aller là où est Orange pour faire la compétition? Est-ce qu'on veut aller là où n'est pas Orange? Bon, ça, c'est leur choix. Mmh. Mais au moins, ils ont l'information. Et ça, c'est de l'information.
Avec une valeur, bien sûr.
Oui, ça, c'est un use case assez typique, ouais.
Récemment, on a eu les ballons espions qui se faisaient tirer dessus, alors je sais pas quelle distance du sol. Pour se projeter un peu en matière d'altitude, vos satellites se situent où?
Alors, nos satellites, ils sont à environ 500 km du sol. Pour donner une idée, la station spatiale internationale, là, on voit Thomas Pesquet et tous les astronautes, etc., elle est à 400 km. Les ballons sont à quelques dizaines de kilomètres de hauteur. Les avions volent généralement, les avions commerciaux volent à 10 km. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas tellement cette hauteur-là. Ça, je réponds à la question, mais en fait, c'est pas forcément la question la plus importante. Ce qui se passe, c'est qu'à partir d'environ 50, 60 km, il y a quasiment plus d'air. Donc, il y a plus de choses qui peuvent voler. Donc, on est obligé d'avoir des satellites dès qu'on va être au-dessus de 100 km. Et l'énorme différence, il y en a deux. La première, c'est que les satellites, c'est dans l'espace, donc ce n'est pas l'espace aérien. Donc, si on est chinois et qu'on veut envoyer un avion au-dessus des États-Unis pour regarder, bah ça, c'est illégal. On viole l'espace aérien des États-Unis. Donc, ça, typiquement, ça va déclencher des choses pas terribles. Les satellites, comme les satellites tournent autour de la Terre, ils passent au-dessus de tous les pays. Donc, il y a 70 ans, il y a une loi qui est passée internationale pour dire, bah, en fait, les satellites, c'est pas considéré comme une violation de l'espace aérien parce que de toute façon, ils sont obligés de tourner,
bien sûr.
Voilà. Donc, ça, c'est quand même une différence majeure.
Par contre, alors je sais pas à quel point ça se téléguide, ça se manipule, mais plus il y en a, j'imagine qu'il y a de l'espace, mais que cet espace comme tout, il n'est pas complètement infini. Ben, peut-être que tu me diras que si, mais du coup, plus il y a de satellites, plus ça demande peut-être une orga, voire d'échanges entre concurrents.
Oui, alors ça c'est assez intéressant. Alors non, l'espace n'est pas infini, ça c'est sûr. Il est limité. En revanche, comme on est à 500 km de la Terre, on est sur une surface qui est plus large que la surface de la Terre.
Bien sûr.
La surface de la Terre qu'on connaît, c'est uniquement un tiers, parce que les deux tiers, c'est des océans, donc on a tendance à l'oublier. Et en plus, on est sur un volume. On n'est pas juste sur une surface, on est sur un volume. Ouais. Plus que le volume de la Terre. Donc, pour avoir quelques milliers de satellites qui font la taille d'un frigo, c'est comme si tu disais, j'envoie un millier de voitures sur le volume de toute la Terre et tous les océans. Est-ce que c'est un problème? Bon. Fondamentalement, il y a de la place. Là où c'est plus challenging, c'est sur les fréquences.
Trajectoires.
Non, en fait, c'est sur les fréquences.
Ok.
Communiquer avec son satellite. Ben, en fait, il faut envoyer, ben, c'est la radio, donc il faut envoyer un signal radio vers son satellite. Le signal satellite envoie un signal radio vers le sol. Et ça, comme il y a des satellites un peu partout, quand les signaux radio arrivent les uns sur les autres, ben, ça crée des interférences et on reçoit plus rien. Donc ça, c'est coordonné à l'espace, au niveau international par l'organisation les Nations Unies. Il y a une entité qui s'appelle International Telecommunication Union qui coordonne avec chaque pays. Et nous, on doit passer par l'agence de réglementation des fréquences. Donc en France, ce serait la NFR. Aux États-Unis, c'est la FCC, etc.
À chaque fois que tu veux parler à ton satellite?
Non, ça c'est pour avoir une licence pour avoir le droit d'envoyer les satellites.
Okay. Quand
on met un satellite dans une fusée, la personne qui opère la fusée nous demande cette licence. Si on ne l'a pas, ils ne nous mettent pas dedans.
Donc ceux qui opèrent les fusées, c'est les SpaceX, les Rocket...
Rocket Lab, Ariane Espace, etc.
Ok. Et pour parler à ton satellite, il faut attendre qu'il passe au-dessus de toi?
Il faut attendre qu'il passe au-dessus d'une antenne, exactement. Alors, on travaille avec des partenaires, on a un réseau d'antennes dans le monde entier, donc on a une antenne quasiment au pôle Nord, quasiment au pôle Sud, donc en Arctique, en Antarctique, en Australie, au Pérou, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Alaska, on en a un peu partout. Et comme ça nous permet de communiquer avec le satellite de manière assez régulière.
Est-ce qu'il y a eu... Avant de venir sur la genèse et comment on en arrive à réussir à faire quand même une sacrée boîte au niveau mondial, il y a eu des ratés.
À Loft?
Ouais.
Ouais, il y a eu beaucoup de ratés, hein, ça c'est sûr.
Parce qu'on aime bien parler des réussites, mais on oublie souvent que derrière les réussites, bah, il a fallu quand même souvent se retrousser les manches.
Oui, ça c'est tous les jours, se retrousser les manches. Non, bah, il y a des challenges importants. C'est par exemple, notre premier fournisseur de satellites n'était pas terrible, on va dire. Donc sur un projet d'un an, ils ont eu 2 ans de retard, ou voilà, ce genre de choses-là. Et donc on avait acheté une fusée à SpaceX pour lancer en décembre. Et on n'a pas réussi à être prêt à temps à cause de nos fournisseurs. Et donc du coup, ben, une semaine avant la date du lancement, faut appeler SpaceX, leur dire qu'on ne sera pas à bord. Et puis là, on se retrouve avec. Et puis on est censé lever des fonds après avoir lancé le premier satellite, parce que bon, pour une boîte qui fait du spatial, lancer un satellite, c'est quand même un événement important. Et de pouvoir lever des fonds en disant j'ai un satellite dans l'espace.
Bien sûr.
Je parle avec. Voilà, c'est autre chose que de dire un jour j'aurai un satellite dans l'espace. Donc l'idée, c'est de lever des fonds après ce lancement. On ne peut pas faire ce lancement et du coup on se retrouve avec pas assez d'argent pour racheter un nouveau lancement parce que c'est cher quand même d'acheter une fusée et on se retrouve avec un prochain lancement qui est 6 mois après sans cash pour aller jusqu'à 6 mois quoi. Donc ça par exemple c'est des moments un peu difficiles.
Bah, je peux pas te laisser t'arrêter là sans te demander comment vous avez fait.
Bah, comme on l'a fait avec mon cofondateur, on s'est débrouillé, hein, donc on se sort les doigts pour aller...
On parle pas de de love money, on va chercher chez les cousins et les parents un peu d'argent.
Non, alors le problème du spatial, c'est qu'en effet, là, on parle quand même, on parle tout de suite de beaucoup de millions de dollars pour faire quoi que ce soit. Donc, dans ma famille, j'ai beau chercher, j'ai pas de cousins pour des dizaines de millions de dollars. Donc ça, c'est compliqué. Du coup, non, on va avoir des investisseurs. Et puis on pitch, on a fait des convertible notes. On avait 10 millions de dollars en 2 mois. Et puis, ça nous a permis de tenir jusqu'au lancement. Et puis, après le lancement, qui était super successful, on a eu de la chance que c'était en juillet 2021. Et c'est la semaine où on commence à aller lever. C'est la semaine où, alors déjà, c'était l'année 2021 où tous les investisseurs voulaient investir dans le Deep Tech. Donc, c'était parfait. Et c'était la semaine où on va commencer à lever. C'est la semaine, je ne sais pas si tu te souviens, où il y avait Jeff Bezos et Richard Branson qui sont tous les deux allés dans l'espace. Alors, ce n'est pas vraiment l'espace, c'est du suborbital, mais bref. Mmh. Et il y avait une communication de malade pour savoir qui est-ce qui irait le premier. Et à un jour près, ils se sont battus pour savoir qui est le premier. C'était leur grand jeu. Mais du coup, toute la presse était orientée sur Jeff Bezos, Richard Branson. Le futur, c'est le spatial. Et donc, tous les investisseurs voulaient investir dans une boîte deep tech qui faisait du spatial et qui faisait des revenus. Donc, on est arrivé au bon moment sur le marché.
Tu t'as évoqué des montants en disant à peu près quoi que tu fasses, c'est plusieurs millions au lancement. Vous arrivez avec quoi au-delà de quand même de votre background, hein, on l'a dit, c'est pour ça que j'y suis revenu au début, mais t'en as fait des années dans cet univers. Comment on va chercher les premiers euros sur quelles promesses et puis quelles garanties même si c'est jamais garanti.
Alors quelles garanties quand tu lèves un fonds en seed money, il n'y a pas de garantie, hein, c'est de l'investissement risque, hein, venture capital. Donc le but des investisseurs, c'est pas de limiter leur risque, au contraire, c'est de maximiser leur upside. Donc le but, c'est si cette boîte-là marche, est-ce qu'il y a une chance que je fasse vraiment un jackpot monstrueux? C'est-à-dire que la boîte sorte à 10 milliards. Voilà. Quand je regarde le fondateur, là, qui a un PowerPoint et il y a 2 personnes, là, qui ont 25 ans en face de moi, est-ce qu'il y a une chance que cette boîte puisse sortir à plusieurs dizaines de milliards? Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, je suis bien conscient qu'il y a 9 chances sur 10, 95% de chances que la boîte vaille zéro et que je perde mon argent. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une fois sur 10, une fois sur 20 où je vais récupérer 300 fois mon argent. Donc c'est vraiment ça le business model, en tout cas dans la Silicon Valley. Et donc on va pitcher tous les investisseurs sur la promesse de rendre l'espace plus simple, de faire des économies d'échelle, de créer des couches d'attraction universelles qui permettent de transformer le satellite en une commodité, c'est-à-dire un objet qu'on peut acheter comme ça. Qui n'est pas du custom-made où on met 7 ans à designer un objet, mais c'est vraiment transformer ça comme une commodité et permettre à n'importe qui de déployer des applications dessus. Donc toute la partie code, développement, scalability. Et c'est ça le premier pitch.
Et du coup, dans la Silicon Valley?
Oui, bah moi j'habitais déjà, comme je travaillais à NASA avant, et puis je travaillais à Spire avant, j'étais déjà à San Francisco, mes cofondateurs également. Donc c'était naturel. Et puis aussi, il y a 5 ans, d'aller voir un investisseur et dire « Bonjour, on veut créer une boîte pour faire du spatial. Est-ce que vous auriez quelques millions de dollars pour nous ?» Il y a à peu près que dans la Silicon Valley qui pouvait faire ça. pas seulement parce qu'ils ont une approche plus forte du risque, c'est juste parce qu'ils font des, ils ont des fonds plus importants. Et donc, quand on a un fonds de 100 millions et qu'on investit 1 million par boîte, on investit dans pas mal de boîtes. Et donc, on peut se permettre de prendre une ou deux boîtes qui sont vraiment risquées. Si on a un fonds de 10 millions et qu'on investit dans 10 boîtes, bah on peut pas se permettre de prendre une boîte qui est complètement risquée.
Tu me refais un peu l'ordre des levées, les dates, les montants?
Oui.
Avec qui?
On a levé tous les deux ans, donc c'est comme Pepia Music. C'est vrai, quand on regarde rétrospectivement, il y a eu tellement de hauts et de bas, mais rétrospectivement, c'est tous les deux ans comme Pepia Music. En septembre, chaque année, on a levé. Donc, septembre 2017, on a levé 3 millions en seed. Le lead, c'était Uncore Capital. Le partenaire, c'était Jeff Clavier. Puis, en fait, Jean-François Clavier, qui est un... Il se trouve qu'il est français, ça fait 25 ans qu'il est aux États-Unis. Ensuite, deux ans après, septembre 2019, on a fait la série A. C'était 13 millions. L'idée par Foundation Capital. Le partenaire, c'est Steve Vassallo, qui est le General Manager du fonds, qui est un investisseur qui a une très bonne réputation dans la Silicon Valley. Et après, septembre 2021, on fait la série B,
menée par BlackRock.
Ouais, donc 140 millions de dollars.
Une autre avenir? En septembre, du coup, ça fera septembre 2023, ça arrive là.
Si on suivait ce qu'on avait fait chaque année, en juin cette année, on commencerait à aller pitcher pour lever en septembre. Il y a deux choses différentes, c'est que depuis qu'on a fait la série B, on a signé à peu près 300 millions de dollars clients, donc on n'a pas forcément besoin de lever tout de suite, même si on a beaucoup de coûts évidemment, et puis il faut grandir l'équipe, etc. Mais on a pas mal de backing, on a aussi fait plus de 50 millions de dettes, donc au final on n'a pas besoin de lever tout de suite, mais on peut toujours lever de manière opportunistique s'il y a de l'intérêt. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, le marché, la macroéconomie, le marché fait que pour les late stage investments, le marché est complètement fermé. Donc, ce serait compliqué de lever aujourd'hui dans les bonnes conditions. Ceci dit, on a quand même beaucoup de momentum parce que, ouais, avec plusieurs contrats à plus de 100 millions, ça change quand même la dynamique de la boîte. Donc, on a beaucoup d'intérêt.
Il y a peu de startups qui se permettent de s'acheter 14 Airbus.
Ouais, alors, on a acheté plus de. On a commencé par acheter 17 satellites à Airbus.
Pardon, 14 satellites à Airbus, oui, il faut être précis. Vous n'avez pas acheté.
Non, mais on a commencé par ça l'année dernière en se disant, bon, ça nous tiendra bien une dizaine d'années avant qu'on les vende. Et puis en fait, 9 mois après, on avait tous vendu. On était sold out, donc on a dû en racheter. Et donc en tout, là, on a racheté une autre quinzaine à Airbus il y a quelques mois. Donc là, on a acheté en tout 35 satellites. Certains Airbus, certains à Leo Stella, qui est une boîte aux États-Unis. Et puis on a. Raytheon aussi aux États-Unis, on a plusieurs fournisseurs.
Il y a une limite par satellite de ce que vous pouvez faire et maximiser?
On est limité, on est fait par la physique du satellite, c'est-à-dire les dimensions, on peut mettre seulement autant d'instruments dans une boîte.
Hein. Ouais.
Sur les usages, on est limité par la puissance électrique qu'il y a à bord, par les panneaux solaires, etc. Mais sinon, il n'y a pas forcément de limite sur le type d'application. Donc on peut faire des choses différentes.
Et la durée de vie d'un satellite, tu te projettes à quoi? 10 ans, 50 ans, 100 ans, c'est quoi?
Non, c'est entre 5 et 10 ans, c'est typiquement 7 ans.
Et il se passe quoi? Il devient quoi le satellite? Il se perd dans l'espace? Il y a aujourd'hui des solutions pour les ramener?
Non, il fait une magnifique étoile filante. En fait, quand tu regardes le ciel et que tu vois une étoile filante, alors parfois c'est nous, mais rarement c'est nous. Mais c'est en fait, une étoile filante, c'est un objet qui brûle dans l'atmosphère. Donc le satellite en fait perd un peu d'énergie chaque jour et donc son orbite descend un petit peu, passe de 550 à 549, 548, etc. Et puis à un moment il y a 100 km et puis il redescend et en rentrant dans l'atmosphère, il brûle. Donc ça fait une étoile filante et il reste quelques cendres.
Au final, les deux gamins de 25 ans, ils vont les valoir quand les 10 milliards pour les premiers invests?
Alors 10 milliards, ça reste ambitieux. Hein, on se concentrer sur 1 milliard pour commencer. D'abord 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, puis 1 milliard. Une étape à la fois. L'objectif, c'est pas non plus d'être la boîte la plus valorisée du monde. Hein. Pour l'offre, l'objectif, c'est avant tout de créer une communauté, d'avoir un peu comme une famille entre tous les employés où tout le monde est super heureux d'être dans la boîte. On fait très attention aux valeurs de la boîte, attention à qui on recrute, etc. Et la philosophie, c'est que everybody has each other's back. Ça veut dire que nous, on fera tout pour nos employés, on ira au bout du monde pour eux et plus loin, et pour leur famille et pour tout. Enfin. On a fait des choses qui sont quand même assez folles pour nos employés, littéralement.
Genre, de quel ordre?
Je peux pas trop en parler là, mais vraiment, enfin, s'occuper de eux, de leur famille, de leurs besoins, etc. Mais si un employé qui me dit j'ai besoin de, je sais pas, d'argent, de vacances, de, ou quelqu'un que je connais a besoin de whatever, enfin, la boîte fera tout pour toi. Littéralement, de manière assez incroyable. Et en échange, les employés care. Donc, ils ont une fierté de faire partie de la boîte. Ils sont heureux d'être dans la boîte. La plupart des gens sont, on va dire, assez bons amis. Donc, on fait pas mal d'événements off-site. On a passé une semaine avec toute la boîte l'année dernière au Mexique, etc. On va tous, on met 100 personnes, on se retrouve tous, on fait la fête, on travaille, on fait aussi des workshops, etc. Mais on a une ambiance vraiment communautaire. Et ça, c'est super important pour nous. Et c'est plus ça l'objectif, d'avoir eu un impact positif sur le monde, idéalement sur le climate change, avec des gens qui sont heureux de travailler ensemble et qui sont heureux de travailler là, quoi, et qui apprennent beaucoup.
Il n'y a pas d'école où on apprend ça. Ça se crée comment? Ça se nourrit comment chez toi?
Je pense que ça commence par avoir de la chance au début sur les premiers employés que tu as. Les premiers 5, 6, 10 personnes qui ont rejoint la boîte étaient vraiment exceptionnelles. Et donc, ça crée une culture un peu unique, en fait. Et puis après, ben, la 11e personne qui arrive, elle se moule dans cette culture. Et puis, les 10 premières personnes recrutant la 11e, eh ben, on s'assure qu'elle remplit et qu'elle rentre dans le moule, quoi.
Ce que tu es en train de dire, c'est que la culture d'entreprise n'appartient pas qu'à ses fondateurs.
Ah non, pas du tout, non. Bah non, là, il y a. Nous, on a plus d'une centaine de personnes sur deux continents différents, dans trois bureaux différents. Donc, non, ça, c'est. Ce que font les fondateurs, c'est s'assurer que quand la culture n'est pas là, on fasse des changements. Et puis qu'on pousse à fond pour recruter les personnes qui vont être des bons éléments de la culture. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens. Ou dans l'entretien, tout le monde dit cette personne-là, elle est super forte techniquement, etc. Mais on sent qu'au niveau de la culture, ce sera pas, elle va pas s'intégrer, elle va pas participer à continuer à faire grandir la culture de la boîte.
T'as des signaux faibles, toi, comme ça, que tu observes ou tu dis ça. La personne, elle peut être le bon diplôme, la bonne expérience, tout qui coche plein de cases, mais en fait, ça le fera pas.
Ouais, ça tu le vois tout de suite dans l'entretien. Déjà la passion pour ce que tu fais, l'aspect collaboratif, est-ce que tu as une approche d'être un servant leader, est-ce que ton but c'est d'aider les autres ou pas, ça se voit tout de suite en fait dans la façon de parler, la façon de communiquer, la façon d'être. Est-ce que à la fin de l'entretien, les deux personnes, genre si tu t'entends super bien avec la personne, c'est un peu comme du dating, quoi. Est-ce qu'à la fin de l'entretien tu dis ah mais j'adorais passer du temps avec cette personne là tous les jours, quoi, ou est-ce que c'est la personne qui est pas très communicante, qui n'a pas l'air très heureuse, qui n'est pas très souriante, qui te parle négativement de ses expériences passées, qui est dans une spirale négative, et qui est tout de suite là à parler de ce qu'elle a fait, de elle. Ça c'est moins excitant.
Après, certains diront que c'est pas toujours intéressant d'avoir que des copycats de soi-même, de son mindset ou de sa manière d'être avec les autres. Néanmoins, ça dit quand même des choses.
Bah bien sûr, par exemple, nous, on fait le grand écart. Moi, j'ai des personnes qui ont 50 ans, qui ont passé 30 ans de leur vie dans la US Defense ou US Intelligence, qui sont Americans only, America first, tu vois, comme ça. Et à l'inverse, j'ai des jeunes de 25 ans, français, ultra woke, qui sont à l'opposé de cette culture. Et pourtant, quand tu as la bonne culture et la bonne mindset, ces gens-là, c'est les premiers à hang out together et à passer du bon temps ensemble et à avoir les mêmes objectifs, la même vision et la même façon de travailler dans un esprit d'entraide et de collaboration. Alors que c'est des gens t'en as qui ont passé 15 ans à Lockheed Martin et t'en as qui ont passé 10 ans à Google en Europe, quoi. Ça a juste rien à voir. Donc c'est pas du tout des carbone copies, c'est pas du tout les mêmes personnes quoi, dans la boîte. Mais l'important, c'est fondamentalement ce qu'il y a au cœur de la personne, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ses tripes? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Et comment est-ce qu'elle se comporte?
Et dans son envie d'être avec les autres. On l'a dit tout à l'heure, donc nouvelle promo très récente du Next 40, donc déjà bravo pour la nouvelle, pour cette nouvelle édition pour Loft Orbital. Ça t'aura pas échappé qu'il y a des réactions nuancées, pas assez de femmes à la tête des boîtes, des sujets de mixité, de diversité, la question des critères aussi. Alors, il en faut bien un moment, sinon c'est compliqué. T'as un regard là-dessus?
Alors, sur les critères de sélection, non, je ne les connais pas forcément. Je ne sais pas exactement quels sont-ils. Il y a sûrement des choses qu'on peut améliorer. Au final, c'est pas moi qui fais la sélection et puis il faut bien la faire. Et quels que soient les critères choisis, ils seront toujours arbitraires.
Et il n'y aura que 40 Next 40 et 120 FT120.
Donc là-dessus, je n'ai pas forcément de commentaires a fait quand je vois la liste, ça me paraît pas complètement déraisonnable. Par contre, sur la partie de diversité, évidemment, c'est un sujet essentiel. Pour la défense du gouvernement, à la fois, c'est pas eux qui créent les boîtes, et donc après, c'est pas eux qui peuvent faire quelque chose. Hein, c'est pas au gouvernement de faire quelque chose. Ce qu'on voit, c'est un symptôme. La cause, c'est pas le gouvernement là-dessus. C'est le symptôme de la réalité aujourd'hui. Donc, il faut essayer que tout le monde soit proactif pour changer ça. Bon, après, moi, j'ai créé une boîte. Je suis un mec, je vais pas changer ça. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être extrêmement proactif pour pousser au maximum des personnes de talent. Être en charge, vraiment en charge de certains aspects de ta boîte qui se trouvent être féminines. Donc nous, on a à Loft France, donc on a deux boîtes dans Loft France, oui. Donc on a une general manager. Hein. Encore une fois, la personne, elle est là, pas parce que c'est une femme. Hein. Elle est là parce que c'est une personne de haut calibre qui est exceptionnelle. Il se trouve que c'est aussi une femme. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choix. Par contre, on peut se donner comme objectif au début d'aller chercher et d'être vraiment proactif sur le sujet.
Donc, en tout cas, d'aller chercher les talents, bien sûr.
C'est ce qu'on fait beaucoup. On pousse beaucoup pour le faire. Après, dans le domaine spatial, évidemment, si vous voulez chercher un ingénieur firmware...
Déjà, ça se passe dès l'éducation, mais dès l'école, oui.
Ça se passe à l'école, ça se passe au lycée, ça se passe après dans les choix de cursus, etc. Parce qu'il y a des métiers... Enfin, voilà, les métiers sont généralement... Il y a beaucoup de métiers qui sont genrés. Donc...
Comment on peut faire rêver les petites filles particulièrement, mais aussi les petits garçons, mais un peu plus de petites filles sur cet univers?
Je pense qu'à cet âge-là, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une différence pour rêver les uns et les autres. Je prends mon exemple, hein, c'était aussi les films, etc. Donc c'est sûr que si tu fais un film Walt Disney sur quelque chose qui est lié au spatial, ça crée toujours de l'imaginaire collectif. Hein. Quand on est petit, on rêve sur l'imaginaire collectif, donc c'est toujours ça qui fait le plus rêver. Si on parle de petites filles et petits garçons, quand on parle plutôt de personnes qui sont au niveau du lycée, qui vont faire les choix de carrière, là c'est un petit peu différent parce qu'on a passé Disney. Là, je pense que c'est...
Moi, j'ai jamais passé Disney.
Ok, fair. Je pense que là, c'est deux choses. C'est donner l'envie de travailler dans une culture qui est intéressante. Donc ça, c'est le cœur de Loft. Et puis l'autre sujet, c'est d'avoir un impact sur... les points qui sont importants pour les gens, donc que ce soit dire les gens vont travailler dans l'humanitaire, parce que ça a un impact important, concret, visible, et on a envie de se donner pour une cause donnée.
Donc, on ne se projette pas aujourd'hui l'impact que peut avoir le spatial, mais que tu as évoqué tout à l'heure, sur le changement climatique, sur le care et la sécurité.
En fait, le spatial, c'est utilisé tous les jours pour tout. Il n'y aurait pas de tomates fraîches dans les supermarchés s'il n'y avait pas de spatial. Voilà, il n'y aurait pas...
Fais-moi le lien.
Le lien, c'est la chaîne du froid, elle est respectée à travers des camions frigorifiques avec des petits devices à l'intérieur qui transmettent en temps réel la température pour s'assurer que la chaîne du froid a été respectée, okay. Par exemple. Quand on envoie des avocats qui viennent, bon là, c'est pas forcément super au niveau climate change, mais des avocats qui viennent du Mexique, ils prennent d'abord un train, puis un bateau, puis un cargo, puis un autre train, puis un cargo dans 5 pays différents. Il n'y a pas un réseau cellulaire au sol qui peut permettre de traquer ça. Donc ça, c'est des choses qui sont traquées depuis l'espace. Voilà. Donc ça, c'est pour le suivi. Après, pour faire croître les tomates, oui, tous les agriculteurs à l'échelle utilisent des données météo. Donc toutes les données météo, enfin la plupart des données météo nécessaires à faire le forecast, elles viennent de l'espace aujourd'hui. Donc il n'y a plus de satellites, il n'y a plus de météo, donc il n'y a plus d'agriculture. Voilà. On peut aller assez loin dans la démarche. Quoi.
Tout est espace. Très rapidement, parce que je veux qu'on aborde plein d'autres sujets, on l'a rapidement évoqué, cette double casquette US et France. Pourquoi deux boîtes pour une seule et même entité?
Pourquoi deux boîtes? En fait, c'était important pour nous d'être en Europe pour plein de raisons. La première, c'est l'accès aux talents. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est très compliqué d'embaucher des gens qui ne sont pas américains, parce que l'immigration est compliquée. En Europe, il y a certains pays qui sont très favorables à l'immigration, par exemple le Portugal, par exemple la France. Et le gouvernement a fait un super travail avec des passeports, des visas tech, etc. Donc, si demain je vais embaucher un PhD en satellite frequencies argentin, je sais que je peux le faire. Et ça a quand même beaucoup de valeur. Donc, le premier, c'était le talent. Donc, on pourrait embaucher des gens. Le deuxième, c'est l'accès au marché. l'espace est quand même un marché relativement domestique. C'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne va donner des contrats à des boîtes qui sont européennes. Nous, on travaille avec l'Agence spatiale française, le CNES, et il faut que les choses soient faites en France, développées par des ingénieurs français. Ça fait partie du monde du spatial, mm-hmm. pour un certain nombre de raisons. Donc, pour avoir accès à un marché, il faut aussi être implémenté dans ce marché. Donc, ça, c'est la deuxième raison.
Et ça, c'est vrai à la fois ici, mais aussi à San Francisco.
Exactement. Ouais. Pour avoir accès, ouais. au marché américain, il faut être une boîte américaine. Je pense que ce qui, pour nous, est un point fort, c'est-à-dire qu'une boîte française, je pense que c'est la complexité beaucoup pour les boîtes les scale-up françaises, c'est comment est-ce qu'on scale à l'échelle mondiale. Donc, quand on fait du SaaS, c'est plus facile. Quand on fait quelque chose d'industriel, souvent, c'est des marchés domestiques. C'est quasiment impossible. Et une boîte française qui crée du spatial en France, qui veut s'implanter aux États-Unis, ce ne sera jamais une boîte américaine. Ça ne marchera jamais. Et comme c'est 80% du marché mondial, on est limité à 20% du marché mondial, on ne sera jamais leader mondial et on est limité par la structure macroéconomique du monde. Alors que nous, en étant d'abord basé aux États-Unis, on a accès au marché américain. Après, s'implanter en France, évidemment, il faut être... c'est pas évident, mais nous, notre ambition, c'est clairement d'avoir le plus d'employés en France, parce qu'on a aussi on a pas mal de raisons pour faire ça. Et donc, du coup, quand on vient en France, qu'on implémente, qu'on a aujourd'hui notre plus gros bureau qui est à Toulouse, on est vraiment une boîte française, en fait.
Et du coup, pour ces deux directions de boîtes différentes, ça veut dire quoi, très concrètement, sur la gouvernance, vous organisez comment avec ton et tes associés?
En fait, on essaie de travailler comme une seule boîte. Donc, même si, oui, peut-être que légalement, derrière, au niveau accounting, l'équipe finance fait en sorte qu'on soit compatible avec toutes les lois fiscales des deux pays, etc. Donc ça, c'est un peu la cuisine derrière. La réalité, c'est que la façon dont on travaille comme une seule entreprise. Donc, les gens peuvent être dans n'importe quel des trois bureaux. On travaille vraiment comme une seule boîte qui a juste trois locations différentes.
Donc, c'est pas un sujet.
C'est pas autant un sujet que ça, non.
Je te propose, mon cher, sans presque transition, de passer à la claque. Wow. Presque même pas mal. Alors, avant de lancer quand même tout à l'heure l'enregistrement, j'ai juste eu le temps de te dire « J'espère que t'as préparé ta claque, j'espère que t'as préparé ta carte blanche et j'espère que t'as préparé ta sista ». La réponse était oui pour certains, non pour d'autres, donc on va voir tes talents d'impro, mais c'est le moment de la claque, tu connais le principe.
L'improvisation, c'est le cœur du fondateur, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. La claque, honnêtement, une des claques que j'aurais pu mentionner, celle dont on a parlé tout à l'heure, là, le fait de ne pas avoir fait le lancement, ouais. et de se retrouver à devoir trouver du financement très vite pour que la boîte continue. Une claque, en général, c'est quand on lève des fonds, les gens voient « Ah, vous avez levé une série A, vous avez levé une série B avec BlackRock, c'est génial ». Ce que les gens ne voient pas, c'est qu'une levée de fonds, c'est convaincre un investisseur, et puis après, bon, tout le monde vient autour. Mais nous, notre premier tour de table, je crois que on a dû avoir 70 noms avant d'avoir un oui. Donc, 60, donc toi, tu es là, tu te dis, je vais créer ma boîte, c'est super, tu fais ton petit PowerPoint, tu crées un peu ton concept, et puis tu vas pitcher, et puis on te dit non, 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 et puis on te dit non 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 70 fois, et à un moment, tu te dis, bon, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Donc là, le côté résilience, c'est super important.
Et à aucun moment, parce que forcément, ça, on va pas se mentir, ça génère à minima de la frustration, à maxima du renoncement et entre les deux du doute.
Ça, ce serait raisonnable comme expectation, mais en fait, c'est pas le cas. Il faut juste pas avoir de doute, il faut juste pas avoir de frustration, parce que si on est frustré par ça, on va être frustré par beaucoup de choses. Donc quand on a serendipity, on dit en anglais, je crois, mais
serendipity, voilà, ouais.
Merci, voilà le mot en français. Quand on est assez serein. Bon, on se dit non, c'est pas grave, on va pitcher quelqu'un d'autre. C'est vraiment, il n'y a pas de frustration générée par ça du tout.
Mais tu le disais, des invests qui sont capables de mettre des montants de ce type dans la Silicon Valley en particulier, j'imagine qu'il n'y en a pas 500 non plus.
Non, mais ça, tu ne le sais pas au début, donc tu pitches tout le monde non plus. C'est ça qui est bien. Et puis au final, toi, tu continues à avancer. Il faut juste avoir une certaine personnalité. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, tu dis, ah, on a quand même dit non 70 fois en deux mois, bon, ok. Mais ça, c'est.
Voilà. C'est la première fois qui est plus difficile.
Je pense que ça dépend de ta boîte. Ça dépend là où elle en est quand il faut lever.
Parce que sur la seconde, vous aviez les premiers clients.
Sur la seconde, on avait les premiers clients. On n'avait pas encore de satellite. Évidemment, L'avantage de la première, c'est que tu peux pitcher la promesse, t'as aucun track record. Tu fais, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, rien, on a commencé hier. La première, il y a quand même, bon, bah, ça fait 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait en 2 ans, quoi. Donc, il y a quand même, et puis les gens regardent moins la promesse et plus ce que t'as fait. Et puis, pareil, la série B, c'est super, t'as une promesse, mais ça fait 4 ans, t'as dépensé 20 millions. Qu'est-ce que t'as fait, quoi?
Vous êtes rentable à date, prochainement?
Alors, la rentabilité, c'est un. Pour une boîte,
c'est compliqué.
Non, c'est juste un sujet, ça dépend comment est-ce que les gens la définissent en fait. Ouais. Est-ce qu'on la définit sur un cash flow annuel ou est-ce qu'on la définit sur une unité économique par satellite? Et c'est assez différent.
Ouais.
La rentabilité sur unité économique par satellite, oui, complètement. On fait des grosses margins assez importantes. La rentabilité au niveau de la boîte, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez de revenus à terme pour financer les coûts de la boîte
Et la croissance.
Pour les patrimoines. Ça, je pense qu'on est à, on doit être à 2 ans de ça. Par contre, si on regarde sur un cash flow annuel, ça, on n'y est pas. Et puis, on n'y sera pas. Et puis, je pense que si tout va bien, on n'y sera jamais, en fait. Parce que vu qu'on crée de l'inventaire, par exemple, là, nous, on a acheté, là, on va dire qu'on achète 30 satellites. Donc, on dépense des centaines de millions d'euros pour acheter des satellites et des fusées. Et on n'a pas des centaines de millions de revenus qui arrivent cette année. Par contre, si je dépense 100 millions maintenant, ça me génère 300 millions d'euros de revenus l'année prochaine. Mais j'ai un cash flow qui est négatif sur l'année, forcément. Donc, et si on est en croissance, par définition, on achètera toujours plus pour servir des revenus futurs qui sont plus élevés. Donc, la seule façon d'être dans ce modèle, la seule façon d'avoir du cash flow positif sur une année, c'est de ne pas avoir de croissance.
C'est quoi le plus gros risque pour vous que ça se rétracte, l'activité, le business? Parce qu'à priori, les usages, il y en aura toujours plus et toujours plus de demandes.
Ouais, aujourd'hui, on a énormément de demandes. Donc, c'est nous qui refusons des clients en pratique.
La place ou pas l'envie?
Parce que pas assez de temps pour le travail.
Ouais.
Voilà. Okay. Donc, non, le gros sujet, c'est le recrutement et justement grandir rapidement sans trahir sa culture et en implémentant, en grandissant les process qui sont nécessaires. Quand on est 30 personnes, il n'y a pas besoin des mêmes process quand on est 150, quoi. Donc, implémenter les bons process pour pouvoir scaler de manière raisonnable, c'est pas facile.
Alors, j'avais une question sur la première levée, donc celle-là, on a gagné un peu de temps. La première décision cruciale, vitale pour la boîte?
Le choix du premier lanceur. C'est-à-dire le choix la première fusée qu'on achète. On l'avait acheté aux Indiens, donc c'est une fusée indienne. Et donc ça a beaucoup d'impact sur ta timeline, tes coûts, ton engineering, etc. Donc ça, c'était une grosse décision.
C'est quoi? Parce que du coup, il y a la fusée, le lanceur, c'est pas pareil?
Le lanceur, c'est le mot technique pour la fusée. C'est la fusée. C'est la
même chose. Et on a vu Kineis à ce micro, qui est aussi au Next 40. Tu dois connaître Alexandre Tisserand. C'est quoi le pendant qu'on peut expliquer entre les deux? Parce que vous êtes deux boîtes du Next 40 dans le space. Vous ne faites pas la même chose. Peut-être tu peux le réexpliquer avec tes mots pour ceux qui auraient la flemme d'écouter ce super épisode qu'on a fait avec Alexandre.
Bah, c'est très simple. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour traquer les containers, etc., ou même traquer, on voit souvent les balises Argos pour traquer les baleines, les papillons, les dauphins, etc. Ça, c'est ce que fait Kineis. Eux, ils ont des radios dans l'espace pour pouvoir faire de la connexion, donc pas 5G, mais de la connexion à faible débit, pour pouvoir traquer des petites balises partout dans le monde. Donc, c'est traquer des bouées pour connaître la météo à travers la hauteur d'océan, traquer les containers frigorifiques pour qu'on puisse avoir des tomates dans les supermarchés, et traquer les baleines pour connaître un peu comment le monde marin évolue. Ça, c'est des exemples de ce qu'ils font.
Donc, et du coup, c'est parce que aussi ils ont leurs satellites ou c'est les vôtres, par exemple?
C'est les nôtres, par exemple. Donc, eux, ils doivent acheter des satellites à des personnes pour pouvoir avoir leur radio à bord du satellite et les opérer. Donc, là, la semaine dernière, on a lancé, le mois dernier, on a lancé un satellite avec une fusée SpaceX depuis Cap Canaveral. À bord de ce satellite, il y avait plusieurs clients. Notamment, il y avait un radiomètre de la NASA et il y avait une radio pour Kineis. Donc, Kineis, c'est un de nos partenaires, un de nos clients sur cette mission-là. On les laisse non seulement faire ça, mais aussi regarder des fréquences dans le futur pour savoir ce qu'ils pourraient faire dans le futur.
T'as déjà rencontré le patron de SpaceX?
Oui.
Il y a un côté, parce que ça fait quand même partie des légendes de l'entrepreneuriat. Il se passe quoi dans la tête du jeune entrepreneur français mais ambitieux, qui n'a pas peur d'avoir 70 premiers noms pour sa levée. Non, il y a un truc.
Ouais, il y a un truc. C'est ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas être comme lui. autant je l'admire énormément pour ce qu'il a fait. SpaceX, c'est une boîte incroyable. Tesla, sûrement aussi. Enfin, c'est une de mes aspirations au niveau entrepreneur d'un point de vue professionnel. Par contre, si j'en suis au point d'appeler mes enfants AYXQ, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui s'est mal passé. Donc autant d'un point de vue professionnel, vraiment chapeau. Autant d'un point de vue personnel, je pense qu'on peut souhaiter. Enfin, en tout cas, moi, j'espère mieux.
Tu t'évoques tes enfants, alors ça me fait changer de sujet et je vais pas te demander de te rentrer trop dans le détail, mais il y a beaucoup de grands patrons du digital, notamment US, qui décident de mettre leurs enfants dans des écoles sans écran. Je serais curieux d'avoir ton regard à la fois de papa et d'entrepreneur de la tech sur ce sujet important que sont nos bambins.
Alors, pour être juste clair, moi, j'ai pas d'enfants, c'était dans le futur.
Demain.
Quand je les aurai, comment est-ce que je les appelle?
Si tu n'as pas encore à choisir comment tu vas les appeler, je ne vais peut-être pas te demander comment tu vas les éduquer.
C'est une très bonne idée et je pense que c'est une très bonne chose. Et que l'écran crée beaucoup de problèmes sur la créativité de base, parce qu'on n'a rien à faire, on est juste spectateur, on n'est pas acteur. Ça crée des problèmes de. Qu'on appelle concentration, mais c'est pas le fait de se montrer, c'est le fait, attention span, le fait d'être capable de dédier un peu de temps dans un temps lent sur quelque chose et pas de devoir avoir quelque chose d'excitant qui explose toutes les 20 secondes pour garder une attention. Je trouve que c'est une très bonne chose.
Alors, du coup, comme j'ai fait digression sur digression, on reste sur les premières fois. La première déconvenue, tu l'as un peu évoquée, mais est-ce qu'il y en a une autre qui te vient?
Il y en a beaucoup, mais. En général, Loft, ça a quand même été beaucoup de bons moments, plutôt.
Ouais. Allez, on regarde. Ça est le premier nom, pas des invests, le premier nom.
Oh, le premier nom, c'est difficile. Les clients qui disent non, donc ils ne signent pas. Les employés, surtout les employés, en fait. Le premier nom, c'est les employés. Je pense qu'au début de la boîte, il y avait quelqu'un qui a envie de recruter pour gérer une partie engineering et qui, finalement, n'a pas rejoint. Et ça, c'était un premier nom. Donc ça, c'était un peu dommage. Mais bon, on est au début et voilà.
On ne l'a pas évoqué au final, première boîte. Pourquoi ça s'est arrêté?
Parce que ça ne s'est jamais vraiment créé. C'était plus un projet. C'était un projet avec des amis pour essayer de faire quelque chose on the side. Et ça n'a jamais vraiment été un vrai projet. Donc c'est pas un vrai projet.
OK. Je te propose donc de se pré-quitter. On n'y est pas encore avec ta carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Sujet de ton choix.
Le sujet de mon choix, ce serait peut-être deux angles différents du même sujet. Je dirais... Je vais commencer par la liberté, parce que ça, c'est un bon point. Mais je considère la liberté dans un cadre de pouvoir faire ce qu'on veut et se donner les moyens de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, pour moi, c'est plus lié, on va dire, à un sujet qui m'est assez cher, qui est l'exploration en général. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avant de faire Loft à faire des expéditions dans plein de pays différents, faire de la montagne, aller dans des jungles, des choses comme ça, aller vivre au milieu de la forêt avec des tribus indigènes. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît, mais qui est possible de faire quand on a... une mindset qui permet de le faire. Donc, c'est pas se mettre de barrières naturelles, d'aller toujours chercher une volonté, une curiosité d'aller explorer quelque chose, d'aller un peu hors du sentier battu.
Ouvrir une voie inexplorée.
Voilà, et ça crée, je pense, le mot liberté, je sais pas si c'est bon, mais aussi une résilience. C'est-à-dire, on se retrouve tout seul au milieu de la montagne, on est à une semaine de marche de quelque chose. Il faut être un tout petit peu résilient pour pouvoir aller au bout de ses envies. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se traduit assez bien dans le monde professionnel aussi, et qui peut être un côté dans la fibre entrepreneuriale là-dessus. Mais pour moi, c'est vraiment le côté exploration que je vois un peu du côté sur la terre, aller au fin fond des montagnes, des jungles, dans l'espace, aller explorer d'autres choses. Ou autre chose que je fais, je suis coach en 0G, c'est-à-dire que je fais des vols en apesanteur. Donc c'est une activité commerciale dessus, et donc je t'occupe des clients qui viennent pour expérimenter l'apesanteur dans les avions qui font des paraboles.
Ouais.
ça, pour moi, c'est aussi un côté exploré, ben, un univers différent, la pesanteur, qu'est-ce que c'est, etc.
Et puis notre donc, rapport au corps qui doit être transformé, ouais.
Exactement, voilà. C'est plutôt ce côté-là. Ça peut être le côté d'aller travailler dans une ONG en Asie du Sud-Est pour aller voilà, rencontrer des gens, vivre quelque chose de différent. C'est toujours ce thème de l'exploration, en fait.
Tu vois, alors moi, je vais te dire que tu as raté une exploration d'une heure supplémentaire. Si tu avais eu tes deux heures habituelles sur le podcast, on aurait pu explorer tout ça un peu plus en détail. On va juste se quitter. On a parlé tout à l'heure de la mixité entrepreneuriale. Tu le sais, on a ce podcast Petite Sœur qui est animé par Solène Etienne, où on donne la parole aux entrepreneurs sélectionnés par les Next 40. Donc déjà, le Next 40, c'est le premier podcast où on choisit pas nos invités, mais on tombe plutôt bien. Et pareil, on poursuit avec les Sista. Ton choix Sista est tombé sur...
Alors, je pense que je choisirais comme inspiration Mathilde Collin, entrepreneuse qui a créé Front, qui est une boîte, pareil, qui a commencé, je crois, à Paris, et puis maintenant, ils sont aussi basés aux US, puis ils sont sûrement basés un peu partout dans le monde, qui est super successful. Et elle a créé sa boîte quelques années avant moi. Donc, au début, quand moi, j'ai créé ma boîte, j'étais allé la voir aussi pour lui, comment on dit, ping your brand in English. Donc, voilà, avoir un peu de conseils, avoir un peu de recommandations sur certains investisseurs. Est-ce que lui, c'est un bon investisseur? Est-ce que lui ou pas, etc.
Est-ce que lui va dire non?
Non, ça, c'est plutôt quand les gens ont dit oui, savoir s'ils sont bons ou pas.
OK.
Et puis même sur plein de pratiques, elle est devenue maman en étant en gérant sa boîte, ce qui est un challenge qui me paraît incroyable. Et elle arrive à gérer tout de front super bien. Donc je suis assez admiratif. Donc voilà.
Eh bien, Pierre Damien, je te propose de lui poser une question directement. Tu vas en faire l'extract et on lui posera en ton nom avec ta voix.
Ah bah ma question c'est comment tu fais. Comment tu fais pour arriver à tout gérer en même temps? Je suis admiratif.
C'est un grand plaisir d'explorer à distance cet espace presque infini. Moi, je reste frustré hein, quand même qu'on n'ait pas eu deux heures ensemble, mais ce sera pour une prochaine fois, si tu le veux.
Exactement.
Bien.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et bonne journée.
Ouais, longue vie à Loft.
Merci beaucoup.
40 nuances de Next.
Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.